traduction rapide. Que Dieu soit dans ma tête et dans ma compréhension. Que Dieu soit dans mes yeux et dans mon regard. Que Dieu soit sur ma bouche et dans mes paroles. Que Dieu soit dans mon cœur et dans mes pensées. Que Dieu soit dans mes fins, dans mes arrivées et dans mes départs.
Et donc il y a des chants que j'aime encore pas. j'attendais le petit geste qui d'habitude me fait signe de venir en chair, mais il faut croire que notre meneuse de louange a été tellement prise par la louange précédente qu'elle m'a complètement oublié dans mon coin. C'est pas grave. Marrant parce que j'ai un peu basé mon message sur la voix qui crie dans le désert. Et cet après-midi, c'est pas une voix, c'est peut-être 20 voix, je pense que vous êtes une vingtaine à la chorale, qui vont venir, non pas crier, mais en quelque sorte crier, tel que je suis, dans le désert spirituel des gens de Champagnole, des habitants de Champagnole. Espérons simplement que cette voix ne criera pas en vain et qu'il y aura un résultat, même si on ne le voit pas tout de suite, mais que la graine qui sera semée cet après-midi, et j'en suis persuadé par l'interprétation de vos chants, feront progresser quelque part dans le cœur de ceux qui seront là, une petite lumière qui pourra peut-être les amener un jour à être ici, et pourquoi pas former eux aussi une chorale qui criera à son tour dans le désert. Oui, parce que mon intention première ce matin était de parler autour du texte de Jean 1,23 qui dit « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. » Alors c'est vrai que c'est un texte qui régulièrement, année après année, lors des dimanches de l'Avent, est prêché, annoncé et développé dans presque toutes les églises. Mais avant de commencer à construire cette prédication, l'idée m'est venue de chercher la véritable définition du mot « désert ». Et je fus surpris par certaines définitions de ce mot « désert ». Par définition, un désert est un lieu géographique aride et en dehors de toute civilisation. C'est un lieu abandonné, inhabité, stérile, silencieux. C'est un lieu de solitude. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est de trouver que c'était un lieu en dehors d'eux. Alors, la question que je me suis posée est pourquoi crier dans le désert s'il n'y a personne pour écouter ? Si le désert est vraiment un lieu où il ne se trouve personne ? Et en fouillant un peu pour trouver les positions de spécialistes, je me suis rendu compte que Théodore Monod, un scientifique naturaliste biologique, né à Rouen en 1902, et j'ai été élevé à Rouen, et qui a vécu 98 ans, et quand on allait à l'école primaire, comme c'était une sommité du pays, on en entendait parler, c'était un explorateur et humaniste français du siècle dernier. En plus, c'était le grand spécialiste des déserts, et tout au long de sa carrière, qui a duré plus de 60 ans, il a insisté sur la vie que l'on pouvait trouver dans un désert. Il disait, le désert, ce n'est pas quelque chose d'inerte, il n'y a rien, au contraire, il s'y passe beaucoup de choses. Je pense que Jean-Baptiste aurait pu, en fonction de sa naissance et de sa formation, prêcher dans les temples de son époque. Il aurait pu faire un sacrificateur largement confirmé, et il aurait pu se contenter de prendre la parole semaine après semaine et s'adresser aux juifs pratiquants dans les temples. Mais pour ma part, je préfère croire qu'il a fait le choix de s'adresser aux hommes en dehors de toute religion établie, en dehors des murs sécurisants des édifices. Il a fait le choix de s'adresser aux anonymes nombreux qui traînait sur le territoire de la Palestine. Et lorsqu'il dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, je pense que c'est du désert spirituel des hommes dont il parle. de ces hommes qui n'ont aucune référence chrétienne, ni aucune crainte de l'Éternel, et qui font n'importe quoi. Car il est grand le désert grouillant de la foule des mécréants. Puis, allant un peu plus avant dans ma réflexion, je me suis posé cette question. Mais après tout, ta vie chrétienne, la mienne, n'est-elle pas aussi un désert? Et la réponse que j'ai été obligé de faire m'a fait peur. J'ai été obligé de me dire que si ma vie chrétienne n'était pas un désert complet, entièrement, j'ai été obligé de me dire que durant les 50 années de vie chrétienne que j'ai faites maintenant, ou dans laquelle je suis, eh bien, il a bien fallu admettre que j'ai traversé plusieurs déserts spirituels. Lorsque ta vie spirituelle était comme aride, me suis-je dit, n'était-ce pas un désert? Lorsque ta vie était desséchée, lorsque tu t'es parfois senti comme étant abandonné de Dieu, et cela m'est arrivé, et même parfois je me suis senti rejeté par mes frères et mes sœurs, lorsque tu as eu l'impression de ne plus produire de fruits, lorsque tu as eu l'impression d'être stérile, lorsque ma vie d'église est devenue une habitude. Tous ces moments de et dans ma vie où celle-ci n'était plus suffisamment arrosée par l'Esprit divin et où elle manquait de force pour vivre, pour croire, pour grandir avec Dieu, n'était-ce pas des déserts spirituels que j'ai traversés et auxquels il a fallu faire face et auxquels parfois j'ai failli succomber et perdre véritablement pied. Sur Terre, il existe des déserts qui résultent des inconséquences de l'homme. Il ressort actuellement que à peu près 20 millions de kilomètres carrés de la surface de la Terre sont concernés par la formation des déserts. C'est une surface aussi importante que les États-Unis d'Amérique et le Canada réunis. Et beaucoup de ces déserts sont causés principalement par des pratiques d'agriculture inadaptées et d'une gestion de l'eau inadéquate. On pourrait presque dire que de même, dans notre vie spirituelle, on peut se retrouver parfois dans un désert à cause de nos inconséquences. Par exemple, lorsque l'on ne prend pas garde aux avertissements de la parole de Dieu et à ses commandements, on donne accès au mal et au doute qui sont à eux deux de grands fabricants de déserts spirituels. Et avant d'accuser Dieu, ce qui est notre premier réflexe dans la plupart des cas, nous devrions nous examiner nous-mêmes pour savoir si réellement nous sommes toujours dans la vérité. Si nous sommes toujours dans le plan de Dieu. Remettre la responsabilité ou la faute sur l'autre, ou sur Dieu en l'occurrence, semble la solution à appliquer, mais n'est-ce pas trop facile? Négliger les enseignements de la parole et ne pas les suivre, c'est ouvrir la porte à celui qui n'attend que cela pour semer le trouble dans notre esprit et nous mettre en conflit avec l'Esprit Saint. Des traversées du désert, nous en trouvons dans la Bible. Prenons un exemple. L'histoire d'Élie, ravitaillé par les corbeaux. Cette expression bien connue est encore souvent employée de nos jours, dans un sens quelque peu péjoratif, mais qui a sa justification. Ne dit-on pas d'un village isolé où il ne se passe rien que c'est un pays ravitaillé par les corbeaux? Eh bien, cette expression nous vient directement de l'Ancien Testament. Elle nous vient directement de la Bible. Il faut remonter à l'histoire du célèbre prophète Élie, 1000 ans avant notre ère. Dieu demande à Élie, en ces temps-là, d'annoncer de sa part une sécheresse sur le pays d'Israël. Puis, afin qu'il ne soit pas touché par cette sécheresse, il demande à Élie de quitter le pays pour un désert où il y a seulement un torrent. Et il lui dit que, dans cet endroit, il sera ravitaillé par les corbeaux. De nos jours, il arrive que les associations humanitaires établissent des ponts aériens pour porter de la nourriture sur les lieux en grande catastrophe ou dans des pays en guerre. On pourrait dire que Dieu a établi le premier pont aérien et de cette manière, Élie, loin de tout, est à l'abri de tout risque de représailles de la part du roi Achab pour sa sécurité physique, mais également il se trouve en capacité de vivre normalement en dehors de la famine. En cela, il est totalement dépendant de l'aide venant du ciel. La nourriture lui est apportée petit à petit au fur et à mesure de ses besoins et par des corbeaux. Nous pouvons lire ce récit, le récit de cette aventure dans le premier livre des rois au chapitre 17 et au verset 1 à 6. C'est la toute grande bénédiction pour le prophète. Mais plus tard, après avoir été largement béni, après sa victoire sur les prophètes de Baal, Élie va subir la colère de la reine Jézabel. Et en effet, le roi Achab avait rapporté à Jézabel comment le prophète Élie avait réagi et comment il avait fait égorger tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager dire à Élie « Que les dieux amènent sur moi le malheur et pire encore, si demain, à cette heure, je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. » On peut lire cela dans 1 Roi 19, 1-3. Et devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Élie quitte donc la Samarie, traverse la Judée et s'arrête à Bethsaida, dans le désert de Juda. Et là, le prophète est pris de découragement. Il se trouve isolé dans une société qui rejette son appel à la conversion. Alors qu'il est en fuite pour sauver sa vie, dans un moment de découragement extrême, il va préférer mourir plutôt que de s'acharner à faire entendre une parole qui n'est pas écoutée. Il marcha toute une journée, nous dit le texte, dans le désert. Puis il s'assoit à l'ombre d'un buisson et là, il demande la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, nous dit le texte, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. À deux reprises, un messager du Seigneur le réveille, le force à manger et lui ordonne de se lever, de se mettre en route. L'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Autrement, le chemin sera trop long pour toi. Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Comme pour Élie, dans les pires situations où nous puissions nous trouver, Dieu ne cessera jamais de prendre soin de nous. Il continuera de nous nourrir. Il sera toujours présent à nos côtés. Il nous donnera les forces nécessaires pour nous relever et reprendre le chemin, même si celui-ci doit durer 40 jours. 40 jours, une éternité pour celui qui est dans le doute. Mais pour finir, une sortie et une victoire assurées au bout de ce long pèlerinage, où, soutenu par sa parole et fortifié par son esprit, nous sortirons de ce désert, même si le chemin est miné d'embûches, de chutes, de passages difficiles. La réponse du Seigneur qui engage son prophète dans un nouvel exode, elle nous est aussi adressée à nous aujourd'hui. Ce temps de pèlerinage pourrait être un temps de mise à l'épreuve, mais il pourrait être également un temps de purification et de formation en vue d'une étape nouvelle dans notre vie de chrétien. Et dans notre engagement dans la mission divine, en obéissant Élie, mets ses pas dans ceux de Moïse. En obéissant, nous mettons nos pas dans ceux du Christ. Le chemin d'Élie le conduira jusqu'à Horeb, la montagne sainte, là où le Seigneur s'était manifesté à Moïse et avait conclu l'alliance avec son peuple. Notre chemin, le nôtre, nous conduira tout droit dans le royaume de Dieu, là où le Christ nous a préparé une place, si nous restons dans les pas de celui-ci. Un peu auparavant, j'ai dit que les traversées du désert pouvaient être un encouragement pour nous engager dans la mission divine, dans le désert spirituel où erre l'humanité. Et c'est dans ce désert-là que les uns et les autres sommes appelés à divulguer la parole de Dieu. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il y avait ce que l'on appelait à l'époque les pasteurs du désert. Ces pasteurs étaient en danger de mort après la révocation de l'édit de Nantes. Mais ils organisaient des réunions et des cultes dans des endroits isolés, au fin fond de la campagne française. Et pourtant, à ces réunions et à ces cultes, un grand nombre de croyants venaient. Et à l'époque, croyez-moi, les transports n'étaient pas faciles et ils prenaient beaucoup de temps. De nos jours, Dieu merci, nous ne craignons plus pour nos vies lorsqu'il s'agit d'aller écouter la parole divine. Mais se faire écouter par les hommes de notre temps est certainement autant, sinon plus difficile qu'à cette époque-là. C'est un désert où, pour s'y aventurer, il faut emporter avec soi toute l'eau et la nourriture que nous procure la Bible, afin de subsister et de ne pas succomber devant la dureté ambiante. Sans une profonde confiance dans le secours de Dieu et la démonstration de son aide permanente, notre action est vouée à l'échec. La voix de celui qui crie dans le désert et qui dit « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit les sentiers de notre Dieu », cette voix montre clairement que les événements prophétisés ne se reproduiront pas à Jérusalem, mais au désert. C'est là que la gloire du Seigneur apparaîtra et que toute chair aura connaissance du salut de Dieu. Et c'est ce qui s'est accompli réellement lorsque Jean-Baptiste proclama dans le désert du Jourdain que le salut de Dieu se manifesterait à cet endroit. Car c'est là que le salut de Dieu, en quelque sorte, est apparu. En effet, en cet endroit, le Christ, avec sa gloire, s'est fait connaître à tous. Lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et y demeura à cet endroit-là. Et c'est à cet endroit-là que la voix du Père lui rendit témoignage en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. » Et Jean confirmera ses paroles et demandera aux hommes de suivre Jésus. Le prophète parlait ainsi parce que Dieu devait résider dans le désert, où il devait être annoncé au monde. Toutes les nations païennes de l'époque étaient désertées par la connaissance de Dieu, et toutes étaient sourdes aux justes et aux prophètes de Dieu. C'est dans ces régions inaccessibles et inhospitalières, et justement pour les rendre accessibles, que cette foi ordonne de préparer le chemin et de rendre unie la route inaccessible et raboteuse, afin que notre Dieu puisse faire résonner chez nous la puissance salvatrice de son évangile. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Ah, ces paroles s'adressent à nous tous ce matin. Elles nous demandent de nous mettre en chemin dans notre région. Elles nous demandent de pénétrer dans ce désert spirituel de nos contemporains, afin d'y annoncer le salut offert gratuitement par Dieu. Les évangélistes, les porteurs de la bonne nouvelle, nous ont donné des outils merveilleux, car ils annoncent aux hommes la bonne nouvelle du salut de Dieu. Celui-là même qui a été annoncé par la voix qui a crié dans le désert en son temps. Dieu, aujourd'hui, nous demande de reprendre le flambeau. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe 52:7. Ces paroles sont en résumé toute la vie de celui qui œuvre volontairement pour l'annonce de la bonne nouvelle. Il est ainsi transfiguré et illuminé par la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et du salut en Christ. Soyons-en sûrs, la vie de celui qui annonce la bonne nouvelle devient, de manière consciente ou non, le reflet de la beauté du message divin dont il est porteur. Alors dites-moi comment résister à l'appel de Dieu quand il désire nous attirer à lui pour nous utiliser ? Laissons-nous accueillir par la grâce du Seigneur. Restons disponibles et acceptons d'être formés pour être ensuite envoyés par lui vers tous ceux qu'il aime et qu'il veut sauver. En fin de compte, il ne dépend que de nous, de nous laisser porter par la puissance de Dieu, par la puissance de celui qui vit au siècle des siècles, et d'entrer ensemble, Église, chrétiens, dans la joie de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ, et ainsi faire refleurir les déserts du royaume de Dieu, comme l'a annoncé la Bible. Mais pour cela, il nous faudra à nous aussi, bien souvent, crier dans le désert. Amen.
C'est vrai, Seigneur, que parfois il nous semble être dans le désert et loin de tout secours, de toute espérance. Mais si nous nous confions en toi, Seigneur, bien, tu nous relèves, tu nous redonnes des forces et tu nous amènes dans ta présence, Seigneur, afin de te révéler. Et c'est ce que nous voulons vivre, une confiance totale en toi, Seigneur, qui nous permet de surmonter toutes les épreuves par ta grâce. Merci aussi pour ton évangile, qui est effectivement une voix qui parle dans le désert, des paroles qui permettent de faire refleurir le désert de nos âmes, Seigneur. Et je te prie en particulier pour cet après-midi, afin que, comment, parmi toutes les personnes qui vont pouvoir entendre les chants qui vont être chantés, et bien, Seigneur, tu puisses agir avec puissance, afin que ce ne soit pas uniquement des chants, mais vraiment ta voix qui parle dans le désert des âmes et qui permet d'y faire éclore à nouveau la vie, Seigneur. Que ces paroles sont des paroles de vie. Et nous voulons vraiment nous imprégner de cet amour, de cette force, de cette bonté qui vient de toi, Seigneur, afin d'être les médiateurs de cette vie. Merci, Seigneur. Merci parce que tu fais refleurir nos déserts. Merci parce que tu donnes la vie. Merci parce que c'est une promesse que tu fais à tous ceux qui veulent bien l'accepter, qui veulent bien s'en emparer, Seigneur. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie.
Pas trop me solliciter.